France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT, c'est vendredi, et les informés de France Info font le plein, histoire de partir en week-end les idées claires et le ventre nourri d'actualité, afin de se jeter en toute sérénité sur notre canapé, jusqu'à lundi matin en faisant « Ah !» comme ça. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Virginie Lepetit, Cour International, bonsoir.
Bonsoir.
Également Marc Andelvet de Marianne, bonsoir.
Bonsoir.
Jacques Bronstein de GQ, bonsoir.
Bonsoir.
L'écrivain et journaliste Gaël Tchakaloff, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre dernier livre, Divine Comédie, voilà, c'est publié avec, je mets avec le petit hangar parce que c'est vrai qu'il y a des lémuriens dessus, donc ça plaît toujours, c'est bon pour l'audience, vous savez, les animaux. C'est Divine Comédie, publié chez Flammarion, et vous avez accompagné de très très près de nombreux candidats à la présidentielle, et vous n'êtes pas ressorti vraiment indemne de cette expérience, on va en parler.
Voilà, exactement, ça se voit tout de suite.
Vous êtes là, allez. Et enfin, autour de cette table, alors un candidat que vous n'avez pas rencontré justement dans votre livre à la présidentielle, vous n'avez pas côtoyé ni autopsié, c'est Jean Lassalle. Bonsoir Jean Lassalle.
Bonsoir.
Voilà, alors je note déjà, hop, déjà 10 secondes de temps de parole pour le CSA, voilà, c'est important. Vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques, maire depuis 1977 de Lourdios-Ichère et donc candidat à la présidentielle. Ce soir, nous parlerons de syndicats, de politique, de débats télévisés ou pas, débats télévisés d'ailleurs, mais pour l'instant, les informés de France Info, 31 mars 2017, c'est parti. Alors nous allons commencer cette émission par un petit bilan d'étape puisque dans 24 jours, c'est le premier tour de la présidentielle. Ça paraît loin et proche à la fois. Et comme jusqu'à présent, rien ne nous a été épargné, on serait presque insensible si on nous apprenait que Marine Le Pen entretenait une relation avec Philippe Poutou. Alors renoncement de François Hollande, candidat inattendu, sortant vainqueur des primaires, des soupçons d'emploi fictif, un ministre qui démissionne, des trahisons, des ralliements, un parti en voie de disparition, 11 candidats en course, un insoumis qui cartonne, un autre en marche qui se fait beaucoup d'amis. On a même appris qu'on pouvait rendre des costumes sur mesure, et oui, étrange que tant de Français soient dans l'incertitude de vote. Alors, comment qualifier cette campagne, sinon de pff, un peu comme ça? Alors, Jean Lassalle, vous, sur Radio Classique, vous avez dit que cette campagne, je cite, était totalement dégradante et qu'à la place du peuple, je ne me rendrai pas massivement aux urnes, alors que vous êtes candidat quand même. Pourquoi vous avez dit ça? Pour vous, c'est dégradant, cette campagne?
Ah oui, complètement.
Pourquoi ?
C'est indigne parce que nous vivons une période compliquée dans notre pays depuis plusieurs années déjà, mais pas que dans notre pays. J'ai fait, après le Tour de France, un Tour d'Europe, et j'ai vu que c'était à peu près la même chose partout. C'est une grave crise mondiale. La France est un pays qui adore la politique, qui aime le débat d'idées. Et là, le débat d'idées, il tient autour des invectives. Et puis, c'est l'effet divers, quoi. Il tient le lieu de débat d'idées, vous l'avez très bien rappelé à l'instant. Donc, elle est indigne de notre pays. Et elle est indigne d'un pays qui a peur et qui n'a plus confiance en rien ni en personne. C'est pas ça qui va lui redonner du haut le moral.
Vous suivez donc pour Marianne, bien sûr, l'actualité politique. C'est vrai que ça revient souvent, ça, chez même les candidats eux-mêmes, ils disent on n'arrive pas à développer notre programme parce qu'il y a, depuis le 26 janvier, c'est vrai, des affaires judiciaires qui prennent le dessus. On a l'impression que le lundi, il se passe quelque chose et que le mardi, voilà, c'est terminé.
Oui, effectivement, il y a plein de rebondissements. Les affaires ont monopolisé l'espace médiatique. Parce que sur le plan politique, moi, je trouve quand même que c'est une campagne intéressante, notamment à gauche, notamment ce qui se passe entre Mélenchon et Hamon, ce qui se passe avec Macron. Il y a une clarification, on va dire, idéologique en cours à gauche. Et il y a une campagne sur les réseaux sociaux, où y compris c'est par simple. Rapport à des citoyens qui s'y intéressent. Vous avez fait référence aux marcheurs, aux insoumis. C'est quand même des formes de participation qui contournent d'ailleurs les partis politiques traditionnels. Et à mon avis, on aurait tort de sous-estimer l'intérêt de cette campagne-là, qui n'est pas forcément au devant de la scène médiatique, mais qui apporte des débats qui ont pu être mis de côté ces dernières années. Et je pense notamment aux questions économiques et sociales. On l'a vu lors du dernier débat télévisé, tout un débat sur les 35 heures, le rapport au travail. C'est des éléments qu'on avait plus l'habitude d'avoir dans une campagne présidentielle où on parlait davantage de sécurité, de terrorisme,
d'identité. Ouais, c'est ça.
Et là, ces thématiques-là, on les a pas trop vues pour l'instant dans le débat.
Gaël Tchakaloff, vous avez suivi justement depuis le mois d'août, en fait, la plupart des candidats jusqu'au mois de mars. Donc, nous sommes encore au mois de mars, d'ailleurs. Est-ce que finalement, il y avait déjà, est-ce que c'était prévisible finalement ce délitement un petit peu aujourd'hui de la politique quand vous les avez suivis dès le début? Est-ce qu'ils étaient motivés pour parler? On se souvient des thèmes à l'époque, c'était justement l'identité, le chômage.
Bah, il y avait des signes d'épuisement du système. Les signes, on les voit, bah, ça, Jean Lassalle le sait mieux que moi, dans les meetings et dans le public, le type de public qui peut être découpé à la scie sauteuse par l'Institut de sondage. Je pense notamment au meeting de François Fillon dès le mois d'août ou début septembre, où on voyait très bien qu'il y avait un public d'une verticalité incroyable, c'était un public de niche. Mmh. Et à l'époque, c'est pour ça qu'on disait tous, non, mais il peut pas gagner. Bon, voilà, on s'est complètement planté, c'est pas grave. Mais non, moi, je trouve que c'est une campagne passionnante depuis le début, et comme toutes les passions, elle est suicidaire parfois, et elle est constructive d'autres fois. Elle était suicidaire parce qu'en fait c'est le signe de l'épuisement total du système politique, et elle est constructive parce qu'au fond elle donne naissance à un nouvel enfant. Un nouvel enfant, c'est un changement de paradigme, la disparition de la droite et de la gauche pour les conservateurs et les progressistes. Et donc je trouve que c'est, elle est intéressante de ce point de vue-là. Après, le problème, c'est qu'on n'est plus dans le débat d'idées, on est dans un concours de personnes. Mais il faut se demander pourquoi. Sans doute parce qu'on sait que la vérité n'est plus dans le débat d'idées, dans les programmes.
Voilà, on va parler de Jacques Bronstein, c'est vrai. Cette histoire de débat d'idées aujourd'hui, nous-mêmes, ici, on essaye de temps en temps, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors,
le débat d'idées a quand même un petit peu lieu. Mais moi, ce qui me frappe, moi, je suis journaliste culturel, donc je peux être en tant que citoyen, je peux être affligé par cette campagne, mais en tant que personne habituée à juger de la fiction, elle est formidable quand même. Mmh. Je veux dire, on n'est pas dans House of Cards ou à la Maison Blanche, ils n'auraient pas osé des rebondissements pareils. On est plutôt dans Scandale, la série grand guignolesque, j'aurais peut-être pas dû choisir ce mot-là, de M6 qui raconte les conseillers en communication. Ce qui est incroyable, c'est le centriste sorti de nulle part, qui finalement caracole en tête. Mais ça, c'est généralement un scénario qu'on a vu dans plein de fictions politiques. Mais d'habitude, ça suffit à faire la fiction. Mmh. Là, il y a plein d'autres choses. Et puis, alors en plus, les montres, les costumes, les châteaux, c'est visuel tout ça. Ben, je veux dire, si on juge de cette campagne comme étant une série télévisée, elle est formidable. Si on est un citoyen qui se pose des questions, elle est peut-être un petit peu plus compliquée.
Allez, on va continuer justement à en parler de cette campagne. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Pas de vol entre Paris et Cayenne ce week-end. Les compagnies Air France et Air Caraïbes n'assureront pas leur liaison quotidienne à cause du conflit social qui touche la région d'outre-mer depuis bientôt 2 semaines. Air France évoque un niveau de sécurité insuffisant pour ces avions gros porteurs. Les discussions entre les ministres et les acteurs du territoire ont repris aujourd'hui dans une ambiance apaisée. Fin des auditions des 3 policiers de la BAC de Paris après la mort d'un ressortissant chinois dans le 19e arrondissement de la capitale. Les fonctionnaires étaient entendus par l'IGPN, la police des polices. Ils ont confirmé leur première déclaration. Les policiers expliquent avoir tiré en situation de légitime défense sous la menace d'une paire de ciseaux. La famille de la victime conteste cette version et évoque une bavure. L'autorité de sûreté nucléaire avait alerté dès 2005 sur des problèmes à l'usine du Creusot en Saône-et-Loire. C'est cette usine qui a produit la cuve de l'EPR de Flamanville. Le site a été racheté en 2006 par Areva. Information du service investigation de France Info. La CGT perd sa place de leader dans le privé, détrônée par la CFDT historique, selon le secrétaire général du syndicat réformiste, Laurent Berger. La CGT reste toutefois le premier syndicat de France, tout secteur confondu, public comme privé. La première ministre écossaise a officiellement demandé à son homologue britannique le pouvoir d'organiser un second référendum d'indépendance 2 jours seulement après le déclenchement du Brexit. Nicola Sturgeon souligne que le peuple écossais doit avoir le droit de choisir son propre avenir.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de ce bilan d'étape, hein, puisque nous allons rentrer demain dans le mois de l'élection. Le premier tour, c'est le 23 avril. Beaucoup de candidats sont en meeting ce soir. Il y en a un parmi nous, c'est Jean Lassalle. Vous, c'est la première fois que vous présentez à l'élection présidentielle. Vous avez bien sûr obtenu toutes vos signatures. Aujourd'hui, quand vous êtes candidat officiellement, qu'est-ce que ça vous fait dans la vie d'un homme politique, aujourd'hui, d'être candidat à la présidentielle ? Est-ce que pour vous, c'est une consécration ?
Oh non. Il faut que j'arrive à l'Élysée. J'ai encore quelques jours à tenir. Là, peut-être, mais même pas, parce qu'il y a tellement de travail à accomplir. Et puis, moi, ça n'a jamais été... je suis curieux. Jamais vécu le moment de la victoire. Or, j'ai toujours gagné. Je suis le seul des concurrents, je le dis au passage, avoir toujours gagné. Donc, il va se passer forcément quelque chose. J'ai pas senti de sentiment de joie profonde. J'ai immédiatement le costume qui me tombe dessus et puis le casque, vous savez, qui vous tombe sur la tête. J'épouse tout de suite la responsabilité. D'accord. Voilà. Donc, je considère que je suis dans un parcours que j'ai, c'est vrai, l'immense honneur d'accomplir, c'est un honneur. C'est vrai, mais voilà, pas plus non plus.
Et une chose, Jean-Lassalle, vous avez dit, alors, c'est pas, vous n'êtes pas un homme très rassurant finalement, hein, parce que vous avez déclaré « Je dois me préparer à l'immense campagne de déstabilisation mondiale dont je ferai l'objet après ma victoire ». C'est pas très rassurant quand même de dire ça.
Oui, mais il vaut mieux, vous savez, il vaut mieux dire les choses, parce que j'aurai un certain nombre de décisions à prendre qui, effectivement, auront un retentissement. C'est pour ça, je vous remercie beaucoup de poser la question d'emblée, parce que j'ai jamais le temps de l'expliquer. C'est pour ça qu'il faut que, de tout au long de ma campagne, je parle de nouveau au peuple et que je le rassemble. Il veut d'ailleurs être rassemblé. Et tout le monde d'ailleurs veut le rassembler. Seulement chacun de son poste. L'un veut le tirer de sa gauche, l'autre de sa droite, enfin, etc. L'autre d'ailleurs. Enfin bref, tout le monde veut le tirer. Moi, je le tire de là où il est, c'est-à-dire là où il se pose. Et effectivement, j'aurai besoin du soutien du peuple quand il m'aura élu, pour qu'il descende dans la rue, dans le même esprit qu'il l'a fait, d'une manière aussi fantastique, qu'il a vraiment impressionné le monde entier au domaine des terribles attentats, et peut-être habillé en blanc, pour soutenir le président, qui aura des décisions difficiles à prendre, aux côtés de la police, de la gendarmerie, de l'armée, dans un élan que nous n'avons pas vu. Donc je le dis à ceux qui nous écoutent, mais c'est pas inquiétant. C'est un signe d'espoir, parce que je veux que ce soit pacifique.
D'accord, donc s'habiller en blanc. Alors, Virginie Petit, on en parlait tout à l'heure, on parlait de cette campagne, voilà, alors est-ce que c'est le signe d'un délitement ou pas, finalement, de nos institutions? Ce qui est marrant, c'est au début de la campagne, tout le monde s'est présenté comme anti-système. Oui. Est-ce que finalement, à force d'être anti-système, bah, ça veut dire qu'en effet, le système n'est pas...
Oui, alors, les candidats issus du système qui se présentent comme anti-système, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs aussi. Et c'est le signe surtout de ce qu'ont capté certains candidats qui ont cru capter de la colère et du ressentiment chez les électeurs. Mais bon, comme on l'a dit, il y en a quand même beaucoup qui viennent du système. Il y en a très peu qui sont vraiment hors le sérail. Et en réalité, c'est quand même... c'est passionnant, c'est exactement ça, mais c'est passionnant à la manière d'un film catastrophe quand même, cette campagne. On va, ben voilà, c'est et même vu de l'étranger, c'est quelque chose qu'on regarde avec effroi. Alors pour des raisons différentes, hein, si c'est la Russie qui regarde, qui
on a vu que oui, on est voilà, ça pouvait l'intéresser, en effet,
ça l'intéresse et qui fustige Macron, candidat atlantiste, pro-européen, etc. Ou l'Allemagne qui elle s'effraie de la montée de Marine Le Pen. Voilà.
Gaël Tchekalov, vous, aujourd'hui, là, vous avez écrit sur l'avant, ça vous donne pas envie, justement, là, de continuer, finalement, ce feuilleton parce qu'on voit dedans, vous les collez au plus près. D'ailleurs, ils ont tout de suite accepté.
Alors, tout de suite, non, hein, il faut quand même pas exagérer. C'était pas facile ouais. de gagner leur confiance. Mais ça s'est fait, oui, au fil des semaines. J'ai commencé à les appeler au mois de juin. Et puis, j'ai à partir du mois d'août, j'en avais trois qui se trouvent être ceux qui se réclament être les candidats hors système. Et qui, effectivement, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, qui parlent, en fait, beaucoup plus facilement que les autres parce qu'ils sont pas contraints par l'aspect pyramidal des partis traditionnels. Il y a pas d'élément de langage. Et au fond, il y a des équipes qui sont, je trouve, ils vont me détester de dire ça, assez professionnalisée, donc elle ne surveille pas trop.
Ah, c'est ça, d'accord, c'est ça le secret. C'est vrai que, Marc-André Leven, on a l'impression qu'il y a eu l'antisystème à un moment qui était très fort, on en parle un peu moins maintenant, mais que c'était une étiquette. Alors, je ne sais pas si ça correspond au fait que tout le monde s'est présenté après Donald Trump, qui a gagné hors système. Est-ce que ça a pu inspirer dans le côté communication des équipes en se disant,
oui,
voilà,
enfin,
c'est leur
système.
Notamment
l'un des premiers d'entre eux, c'est-à-dire Emmanuel Macron, parce que là, pour le coup, il y avait quand même un petit élément de langage de la part d'Emmanuel Macron au sujet de se présenter comme anti-système, alors qu'il est passé par toutes les plus grandes écoles, on va dire, de la République française pour arriver là où il est. Donc, il a eu cette intelligence-là de sentir qu'il y avait effectivement une défiance des Français à l'égard de leurs élites politiques traditionnelles. Voilà. Alors après, est-ce que les Français sont dupes de ces éléments de langage? J'en suis pas sûr. Mais là où ça joue à plein de son côté, c'est qu'il est, il s'est vraiment positionné contre les partis politiques et notamment contre le Parti Socialiste. Voilà. Alors maintenant, c'est plus difficile pour lui parce que comme tout le monde vient revient à lui dans les responsables politiques, un peu comme sur le radeau de la Méduse, où à chaque fois, c'est le feuilleton des ralliements, d'ailleurs. On ne sait pas vraiment sur quel contenu, d'ailleurs, au bout du compte. Là, il traverse une période un peu particulière, notamment un certain flottement, je trouve, de sa campagne, à cause de cette multiplication de ralliements qui va tout azimut, qui va de la gauche à la droite.
Jean Lassalle, justement, Emmanuel Macron, il vous a un peu volé le concept, non ? Puisque c'est En Marche, finalement. C'est vous, en premier ?
Il faut dire qu'il s'est, ça n'est pas mal tiré. Il m'a payé aucun droit d'auteur, d'ailleurs, ce qui m'aurait bien arrangé pour financer ma campagne.
Bien sûr.
J'ai noté que vous avez annoncé que les vols pour la Guyane étaient annulés. Oui. J'avais prévu d'y partir, non pas pour aller verser de l'huile sur le feu, mais je pense que ni même pour aller fêter la victoire, mais tout simplement parce que je pense qu'on aura un énorme déficit avec ces territoires-là. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Leur parler comme un frère. Bien.
Pour vous, justement, quand vous voyez Emmanuel Macron, ce que disait Marc Andelved sur ses ralliements permanents, en permanence, pour vous, ça veut dire que c'est un personnage intéressant, c'est quelqu'un que vous pourriez éventuellement rallier si jamais vous n'étiez pas au second tour ?
Écoutez, la première fois que je l'ai vu, c'est à l'Assemblée nationale et j'intervenais et j'ai dit à Monsieur Valls, le Premier ministre qui était à côté de lui, Monsieur le Premier ministre, vous allez prendre deux Valls graves parce qu'il y avait les départementales et régionales et vous allez voir, aujourd'hui, je viens de voir celui qui allait vous remplacer très rapidement. Vous
voyez, c'est des dons de voyance, presque.
Non, parce que ça se voyait très nettement. C'est un homme intelligent, Macron. Il est jeune, il a pour lui voilà, tout ce que vous savez. Par contre, je ne sais pas. Vu déjà, comme disait madame, le personnel qu'il a rejoint, c'est à peu près ceux qui ont tout essayé depuis 30 ans et tout échoué. C'est une course d'égo. Vous avez parlé du radeau de la Méduse, mais il est fantastique. Parce que le jour où il va falloir parler sérieusement, il a intérêt à ce que Fillon n'ait pas d'avatar avec un costume de plus. Parce que tant qu'il y a Fillon, tout le monde est cristallisé, mais si jamais ça commençait, alors là, ça serait terrible. Moi, je pense que c'est une bulle économique et médiatique qui va faire pchit,
pchit, comme ça. Très bien. J'ai une bulle quand même qui commence à durer quand même un petit peu là.
Bah, effectivement, ses soutiens parmi les gens qu'ils soutiennent, il y a ceux qui ont soutenu Balladur en 95, qui ont soutenu Jospin
Jacques
en 2002.
Chirac aussi.
J'ai envie de dire que quelque part, c'est un des rares éléments contre lui. On est obligé de reconnaître qu'il y a une dynamique, mais les soutiens qu'il a, parfois on se dit ah non mais avec cela ça marche jamais.
Non, Robert Hue non plus. Non, c'est ça.
Par exemple.
Allez, dans un instant, on va parler de ce qui s'est passé dans le monde syndical pendant quelques minutes. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Les autorités chinoises piloteraient les manifestations déclenchées par la mort d'un père de famille chinois dimanche dernier. C'est la conclusion d'une note confidentielle de la DGSI que s'est procurée France Info. Les renseignements français s'intéressent en effet de près aux manifestants qui se réunissent tous les soirs à Paris depuis le drame. Rassemblements qui n'ont plus vraiment de caractère spontané, précise la note. Les associations représentatives de la communauté chinoise de France seraient inhabituellement mobilisées. La CFDT devient le premier syndicat de France dans le privé, un résultat historique selon son secrétaire général Laurent Berger, invité de France Info ce soir. Le syndicat réformiste recueille 26% des suffrages contre 25% pour la CGT lors de la dernière mesure d'audience, 30% même parmi les seuls syndicats représentatifs. Cette position de leader va désormais permettre à la CFDT de signer des accords seuls. Le secrétaire général de l'ONU demande à la communauté internationale de venir en aide aux déplacés de l'offensive de Mossoul. Antonio Guterres était aujourd'hui dans un camp qui accueille des habitants de la deuxième ville d'Irak qui ont fui les combats. Selon le gouvernement irakien, 355 000 habitants de Mossoul ont quitté la métropole du Nord et 400 000 civils restent pris au piège. La crise politique au Venezuela, des manifestations d'opposants aujourd'hui à Caracas et dans d'autres villes du pays. L'opposition dénonce un coup d'État après que la Cour suprême s'est octroyé les pouvoirs de l'Assemblée nationale où les opposants sont majoritaires. La Colombie rappelle ce soir son ambassadeur. Les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies rejettent la rupture de l'ordre constitutionnel au Venezuela.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Marc Andévette, de Marianne, Jacques Brandstein, de JQ, également Virginie Petit, de Courrier International, l'écrivain et journaliste Gaël Tchakaloff et le candidat à la présidentielle Jean Lassalle. Après 122 ans, c'est sûr qu'on n'est plus trop en forme, hein, faut le dire. La CGT l'a prouvé aujourd'hui, puisqu'après plus d'un siècle de domination dans le secteur privé, le syndicat a perdu sa place de leader au profit de la CFDT. Hein. Dans le milieu du travail, c'est une petite révolution. Tant les deux syndicats ont eu des approches différentes sur la loi travail l'année dernière. Et justement, Laurent Berger, le secrétaire de la CFDT, l'avait légèrement remarqué. Laurent Berger, voilà, exactement.
La CFDT, durant ces dernières années, elle a assumé un type de syndicalisme particulier, qui est celui de la proposition et de l'engagement pour obtenir des résultats concrets, en étant parfois très critiqué, vivement critiqué et violemment critiqué. Et bizarrement, les salariés du privé ont décidé de la placer en tête dans les élections. C'est une bonne nouvelle.
Voilà, c'est Laurent Berger, donc secrétaire de la CFDT. Virginie Petit, on voit aujourd'hui, c'est dans le privé, hein, là, c'est parce que la CGT aujourd'hui, qui est deuxième, précise qu'elle reste majoritaire dans l'ensemble public-privé. Mais est-ce que là, on voit finalement les restes, à votre avis, de la mobilisation, de la loi travail, la CFDT qui avait accompagné le gouvernement, la CGT qui était contre?
C'est quand même dans un mouchoir de poche.
Oui, bien sûr.
Et oui, probablement, il y a les reliquats de la mobilisation contre la loi travail, mais le paysage aussi des travailleurs français a changé. L'industrie n'est plus exactement ce qu'elle était. Les bastions qui étaient tenus par la CGT se sont quand même aussi un petit peu rétrécis. Et c'est toute cette métamorphose qui aboutit à ça. Et alors, il y a d'une part le résultat dans les élections, avec des taux de participation qui sont quand même très très faibles. Donc ça,
Moi,
je trouve ça assez effrayant. Et il y a par ailleurs le nombre de personnes syndiquées en France qui lui aussi est faible. Et on donne toujours le chiffre général qui est entre 8 et 11%. Ça dépend des études. Hein.
Ouais.
Mais ce qui est vraiment effrayant, c'est le chiffre parmi les précaires, donc les CDD et les intérimaires, qui est de moins de 1%. Et c'est là qu'il faudrait que les syndicats aillent, parce que c'est ces gens-là qu'il faut aussi défendre. Mmh. C'est pas la première fois que je dis sur ce plateau.
Et c'est vraiment,
et c'est cette partie-là qui grossit en France. Et c'est là qu'il faut que les syndicats aillent se battre.
Marc Andévette, pour vous, aujourd'hui, la CGT voilà, paye son côté plus radical, finalement dans le...
Non, j'en suis pas sûr, non. En fait. Je pense que c'est à la fois une conséquence et une tendance longue, en réalité, de marginalisation de la CGT dans le secteur privé, et notamment, comme il a été rappelé, la conséquence de la désindustrialisation de notre pays. Et effectivement, la CGT, ses fiefs dans le privé, c'était les industries et les grandes entreprises, parapubliques, on va dire, les grandes entreprises verticales liées à l'État. Et la désindustrialisation amène forcément une fragilisation de la CGT. Alors bien évidemment, la CFDT aujourd'hui, en termes de présentation, présente ça comme une victoire au regard notamment de sa différence d'approche au regard du dialogue social. Mais la CGT, il ne faut pas le regarder comme un bloc unitaire et, j'allais dire, informe. En fait, la CGT est présentée comme plus radicale, mais en réalité, dans les faits, dans les entreprises et dans les entreprises privées, c'est elle qui, c'est une des institutions syndicales qui signe le plus d'accords locaux. Et donc, en fait, ils sont pas si intransigeants que ça quand il s'agit de négocier des choses dans les différentes entreprises.
Jacques Brandstein, c'est étonnant quand même quand on voit l'impopularité de cette loi travail. À un moment, on se souvient, l'année dernière, on en a beaucoup parlé et la CFDT avait accompagné le gouvernement et pourtant, on voit aujourd'hui...
Pense que la loi travail n'a peut-être pas fait sur le moment gagner des points à la CFDT, mais il se trouve que les gens sentent bien que le sens de l'histoire, si tant est qu'il existe, va vers des carrières de plus en plus autonomes. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans le tertiaire, et donc la culture de la négociation semble mieux correcte, qui est celle de la CFDT, mieux correspondre à ce que vivent les gens tous les jours dans leur travail. La culture de la CGT, c'était plus les banderoles, les occupations d'usines. Encore faut-il qu'il y ait une usine.
C'est ça. Alors, Jean Lassalle, est-ce que pour vous, aujourd'hui, Virginie Petit en parlait, aujourd'hui, on a vu le déclin, finalement, aujourd'hui, du syndicalisme en France par rapport à d'autres pays européens. On peut rappeler certains chiffres. Alors, au Royaume-Uni, c'est près de 30% quand même des salariés qui seraient syndiqués. Pour vous, c'est quoi ce déclin, justement? C'est à l'image, finalement, aujourd'hui, de l'emploi en France? C'est à l'image du peu d'investissement des citoyens, également?
C'est à l'image de tout ce que nous vivons, et je pense que nous pourrions appliquer à ce que nous avons dit de la politique un certain nombre d'éléments qui tomberaient juste. Je crois que malheureusement, il y a un désintéressement de manière générale, parce que la vie ne semble plus très intéressante pour une très grande majorité de gens. Je trouve un petit peu injuste, mais l'électeur a toujours raison, et tant mieux. Mais quand même la CGT, parce que c'est quand même l'un des rares syndicats qui soit vraiment monté au créneau sur les derniers combats qui ont eu lieu. J'ai eu beaucoup d'ouvriers qui perdaient des mois de salaire. Vous savez qu'avant il y avait toujours un petit stock pour quand même payer les salaires, là il n'y a plus rien. Et moi je trouve que à un moment où on ne dit plus rien, il peut se passer n'importe quoi. On a quand même perdu 750 000 entreprises en 15 ans sans que ça ne nous fasse grand-chose. Voilà. Bon, mais ceci dit, c'est la CFDT, oui, pourquoi pas. Moi, j'ai envie, mais je vais vous dire tout à l'heure ce que j'ai envie de faire.
Justement, eh ben, on va y venir dans un instant à votre programme. On parlera également de ce fameux débat où vous allez aller hein, au mois d'avril, là justement, mercredi prochain, et peut-être le 20, on ne sait pas ce qui se passe avec France Télévisions. Et on parlera également de Nuit Debout, et oui, c'est les 1 an ce soir. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Et si je profitais de la nouvelle Livebox Pro pour mon business?
Moi, avec la Livebox Pro d'Orange, je réponds aux mails de mes clients dans tout l'atelier grâce au Super Wi-Fi.
Pas mal. Mais moi, grâce à ma nouvelle Livebox Pro, je peux envoyer toutes les photos du studio à mes clients.
Mais moi, avec la Livebox Pro, je connecte mon TPE directement à Internet.
TPE, travailleur au physique extraordinaire?
Non.
Avec la nouvelle Livebox Pro d'Orange et la fibre 100% fibre, profitez du très haut débit pour votre business. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus de détails sur orangepro.fr.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
C'est perturbé. Ce matin, on retrouve nos pluies des Ardennes à l'Auvergne, des pluies soutenues et orageuses sur l'Occitanie, la basse vallée du Rhône. Cet après-midi, les pluies vont se décaler vers l'est. Elles seront éparses, sauf à l'est du Rhône et en Corse. Là, on aura des pluies marquées, orageuses. En revanche, sur le Languedoc-Roussillon, ça s'éclaircira. Des Hauts-de-France vers la région parisienne et le centre, c'est variable avec des éclaircies, quelques averses pour cet après-midi. Et puis du nord-ouest jusqu'à l'Aquitaine, c'est changeant aussi avec des averses dès ce matin près des côtes et au sud de la Garonne, partout cet après-midi avec un risque d'orage. C'est moins doux mais un peu au-dessus des valeurs de saison, tout de même 13 à 18 degrés attendus, 13 à Toulouse, 14 à Lyon, 15 à Nantes, 17 à Paris, jusqu'à 19 en Alsace et en Corse. Demain, quelques degrés supplémentaires, de belles éclaircies sur un grand quart nord-ouest, mais encore des pluies orageuses dans le sud-est.
Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr.
NF Habitat, une certification de l'association Qualitel.
NF Habitat, la vie devant soi.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Fanny Bouvard, bonsoir.
Bonsoir. Emmanuel Macron, prince du flou artistique. C'est une attaque signée François Fillon ce soir. Le candidat de la droite était en meeting à Toulon. Il en a profité pour détailler à nouveau son programme pour la défense. Il propose notamment la modernisation de la force nucléaire et la possible construction de porte-avions. La défense aussi abordée aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise propose lui de sortir de l'OTAN et le rétablissement d'un service national pour les jeunes de 18 à 25 ans. En Guyane, les ministres travaillent sur leurs propositions pour la sortie de crise. Ils doivent les présenter d'ici demain matin au collectif de grévistes. En ce moment, ce sont des élus qui sont reçus en préfecture de Cayenne après plus de 10 jours de contestation sociale. C'est une révolution dans le paysage syndical français. La CFDT est à présent le premier syndicat chez les salariés du privé. Elle devance ainsi la CGT. En revanche, tout secteur confondu, public et privé, la CGT reste en tête. Appel à la grève demain dans toutes les boutiques SFR de France. Les employés se mobilisent pour de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération. Dès demain, les locataires pourront à nouveau être expulsés pour impayés fin ce soir de la trêve hivernale. En 2015, plus de 14 000 expulsions avaient été ordonnées par la justice. Une manifestation est organisée demain après-midi à Paris pour une meilleure application du droit au logement opposable. L'Union européenne présente ses exigences au Royaume-Uni 2 jours seulement après le début du processus du Brexit. Donald Tusk réclame aujourd'hui le respect des engagements financiers de Londres et l'octroi de permis de résidence pour les plus de 3 millions de ressortissants européens vivant en Grande-Bretagne. Il l'a dit aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Malte. Le football est la 31e journée de Ligue 1. Une seule rencontre ce soir. Nancy, premier relégable, est sur la pelouse de Guingamp. Esteban Pinel, vous êtes au Roudourou pour France Info. Et c'est Guingamp qui mène 1-0.
Et oui, depuis l'heure de jeu, un but de Slovan Privat au terme d'une jolie action collective. C'est logique parce que Guingamp, qui est à 11 contre 10, hein, on le rappelle, depuis la demi-heure de jeu, dominé plusieurs occasions. Alors c'est pas un très grand Guingamp, mais voilà, ça devait finir par rentrer. Et c'est donc arrivé par l'ancien Canet. Slovan Privat et Nancy depuis est incapable de réagir. La pire attaque de Ligue 1, toujours menée au score, et qui va essayer dans ce dernier quart d'heure d'arracher le match nul 1-0 pour Guingamp, la 75e minute de jeu.
Esteban Pinel à Guingamp pour France Info. En tennis, les demi-finales du Masters 1000 de Miami, c'est en ce moment, et Rafael Nadal a remporté le premier set dans le premier match face à l'Italien Fabio Fognini. Cette nuit à 1h, c'est Roger Federer qui affrontera l'Australien Nick Kyrgios. Il est 20h33 sur France Info, l'heure de retrouver Jean-Mathieu Pernin et tous ses informés.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Ils sont en train de rater le 4e épisode de Koh-Lanta, chaîne de vie, hein, pourrait-on penser. Eh bien, Kenani, puisqu'ils sont autour de la table des informés de France Info. Et ce soir, nous recevons donc Virginie Le Petit de Courrier International, Marc Andelvet de Marianne, Jacques Brochstein de GQ, l'écrivain et journaliste Gaël Tchekalov, et votre dernier livre, donc Divine Comédie, c'est chez Flammarion, et également le candidat à la présidentielle Jean Lassalle. Juste une chose, Gaël Tchekalov, vous avez rencontré donc la plupart des candidats entre le mois d'août et le mois de mars. Est-ce que finalement il y a un point commun entre ces candidats que vous avez rencontrés?
Bah oui, il y a le point commun qui est commun à tous les hommes politiques, c'est-à-dire que c'est la passion,
ouais.
Je dirais la liberté, et une forme de religion, c'est-à-dire que ils trouvent tous dans la politique là une réelle transcendance. Et la dernière chose que je devrais pas trop dire, c'est la drogue.
C'est-à-dire,
bah, c'est-à-dire. Enfin, pour moi, c'est tous des drogués. Moi-même, j'ai goûté à cette drogue et je le raconte
la dans
le livre.
La politique, vous dites.
Alors non, je pense que la drogue, c'est pas au pouvoir, c'est pas à la politique, c'est à la frénésie de vivre, à la voracité de vivre, à l'hyperactivité, à la vie en multiplication. C'est-à-dire, on empile des situations, des conversations, des gens, des allocutions, des rencontres. Et une fois qu'on retourne dans la vie normale, c'est tellement terne qu'on ne peut pas retourner dans la vie normale.
Vous reconnaissez Jean Lassalle dans ce portrait?
C'est assez juste, oui. Je pense, oui.
Vous êtes dépendant à cette adrénaline, vous pensez, vous?
Oui. Alors moi, à vrai dire, j'ai longtemps quand même envisagé de tout arrêter.
Ah.
Oui. De tout arrêter, ça durait un certain nombre de mois.
La cure de désintox.
Non, c'était peu. Oui, je pensais pas forcément à la désintox, mais je n'ai pas eu le sentiment non plus d'être vraiment intoxiqué, parce que voilà, enfin, c'est comme ça. Mais c'est juste ce que vous avez dit, très juste. Non, moi, en fait, c'est lorsque j'ai senti que j'aurais du mal à continuer avec François Bayrou, oui, et le MoDem. Pourquoi? Parce que j'ai eu le sentiment que ce coup-ci, il me faudrait mentir beaucoup.
Pourquoi mentir?
Mentir parce que expliquer que nous allions encore rembourser cette dette alors que nous ne produisions plus rien, nous n'avons plus de richesse, vous avez vu la dette qui est la nôtre, on ne sait pas comment faire, il n'y a rien de plus décourageant que de répéter cela sans cesse, et puis dire que nous allons continuer à toute vitesse l'intégration européenne, alors qu'après avoir fait le tour de France, j'ai visité 15 pays et où je sentis des opinions publiques aussi désenchantées qu'en France. C'est dramatique, mais c'est ainsi. Alors, soit on fait ça, et on fait ça, et on dit on y va,
oreilles, hein.
Mais ceci, ça faisait mentir beaucoup. Et puis, je sentais que vraiment, nous n'étions plus au cœur du des aspirations du peuple et le rejet des partis. Donc j'ai envisagé à un moment donné, effectivement, de partir. Mais seulement le problème, c'est que le matin, je me trouvais une gueule de salaud en me regardant dans la glace.
Très bien. Alors justement, là, on a vu que vous êtes bien reparti puisque vous êtes candidat à la présidentielle et vous allez participer donc au débat du 4 avril. Hein, ça sera sur BFM et CNews, un débat à 11 qui pourrait donc être le seul, hein, puisque Jean-Luc Mélenchon n'est pas très chaud pour aller sur France 2 eh bien, le 20 avril. Emmanuel Macron lui emboîtait le pas et François Fillon ne voit pas l'intérêt si les autres n'y vont pas. France Télévisions n'en démord pas. Il y aura bien un débat le 20 avril avec peut-être, on ne sait pas, on imagine, des mannequins à la place hein, des manquants. En fait, tout dépend du premier débat, formule complète. Enguerrand Renaud du Figaro.
On va voir exactement comment va se passer ce débat 11, qui là encore est une première. Hein. Si c'est une foire d'empoigne, là on peut imaginer que personne, aucun des cinq principaux candidats, ne sera très très chaud pour aller débattre une nouvelle fois sur France 2 le 20 avril. Les Français ont envie de voir de la politique à la télévision. Je ne sais pas, personne ne sait mesurer si les Français ont envie de voir un débat 11. Mmh. Enfin, a priori, ça devrait être assez intéressant. Donc on va voir exactement ce qui va se passer le 4. Ça va vraiment être un point important. Si ça se passe bien, il n'y a aucune raison que les 11 candidats ou les 5 principaux refusent de refaire un deuxième débat sur France 2.
Alors, Garand Renaud du Figaro, Jacques Bronstein, pour vous, 11 candidats face à face, c'est la bonne formule.
Face à face à 11, ça va être très compliqué. Quand même. Déjà, moi, j'ai trouvé que le débat à 5, ça zappait beaucoup, que toutes les deux minutes, ça changeait, tout ça. À 11, ça va être très compliqué. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce soit, je comprends très bien les réserves des candidats, mais ce qui m'étonne, c'est que ce soit Mélenchon qui a lancé ce débat sur le oui ou non un débat, parce que lui, il a été plutôt bon au premier débat, il a plutôt fait une percée après, donc bon, il aime bien engueuler les gens, ça c'est un truc qui revient, mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez sincère, c'est qu'il pense que la vraie campagne, ça se fait sur une tribune, et qu'on finit une campagne par un meeting, et pas par un débat à la télévision.
Marc Andevel.
Il a raison.
Ouais. Alors, justement, Marc Andevel.
Alors, effectivement, c'est pas si étonnant que Mélenchon ait, on va dire, attaqué le premier, le débat, et la date du débat, surtout, hein, parce que c'est moins le débat, même
exactement.
Si...
Exactement. Alors, juste préciser une chose, c'est le 20 avril, donc le jeudi, il restera, le premier tour, c'est le dimanche, mercredi, et il restera une journée seulement pour s'exprimer, puisqu'à partir de vendredi minuit, ils ne pourront plus parler. Ouais, s'il y a une bêtise audite, c'est compliqué.
Mais au-delà de la date, c'est que, enfin, en tout cas, c'est que c'est cette dernière semaine de campagne qui est cruciale pour toute campagne électorale et notamment sur la présidentielle. Et moi, il m'avait confié déjà l'été dernier qu'il faisait, on va dire, la critique de sa précédente campagne de 2012 où il avait, on va dire, ralenti le rythme de sa campagne sur la dernière semaine par rapport à ses concurrents, et notamment par rapport au Parti Socialiste. Et donc, il ne veut pas refaire la même bêtise. Et là, le problème du débat est lié quand même à la question des meetings, parce qu'un débat, ça demande du temps, de l'énergie, de la préparation. Et donc, ça casse toute la dynamique de la dernière ligne droite. C'est effectivement, de ce point de vue-là, les arguments de Mélenchon sont intéressants. Il faut les prendre en compte.
Gaël Jekaoff, pour vous, sur ce, justement...
Moi, je suis complètement révoltée contre cette histoire. Et d'ailleurs, tous les candidats sont plutôt en colère parce que je pense que ça participe à la détestation de la politique. Il y en a assez de transformer nos politiques en Michel Drucker, en la guide pacotille. On nous donne le choix entre un QCM à choix simple, premier débat, un QCM à choix multiple, deuxième débat, mais on veut une dissertation. Donc au fond, on nous impose un exercice qui n'est pas du tout celui que l'on veut. On transforme nos politiques en comédiens et les médias sont en connivence totale puisqu'ils les mettent en scène. C'est plus ça qu'on veut et c'est pour ça que les Français détestent la politique. Donc arrêtons tout ça.
Et en même temps, ils suivent les débats, hein, la primaire, de droite et de gauche.
C'est le signe qu'au fond, les Français ont envie de politique, mais il y a à la fois un problème de mise en scène et un problème d'offre politique. La demande qui manque.
Alors on va en parler avec un candidat dans un instant qui sera présent, lui, le 4 avril déjà, hein, ça sera déjà ça. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Les excuses d'Éric Abaredge ont changé la donne en Guyane. Après le mea culpa de la ministre des Outre-mer, les négociations visant à sortir la région de bientôt 2 semaines de conflit social ont repris dans l'apaisement. Les barrages restent toutefois en place en Guyane et de nombreux magasins sont fermés. Les recherches pour retrouver le petit Vicente enlevé par son père mercredi, les enquêteurs se concentre sur le sud-ouest de la France où le père a des attaches familiales selon le parquet, autour de Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Au total, près de 1300 témoignages ont été recueillis grâce au dispositif alerte enlèvement qui a été levé hier soir. Des perquisitions et des auditions menées par le service national de douane judiciaire hier et aujourd'hui selon le parquet national financier au sujet d'une enquête ouverte il y a un an jour pour jour pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Plusieurs milliers de comptes bancaires ont été ouverts au Crédit Suisse et non déclarés par leur titulaire auprès de l'administration fiscale française. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Australie sont concernés par les mêmes faits. Et puis des tombes profanées au cimetière de Batignolles à Paris. Une dizaine de sépultures, en majorité chrétiennes, ont été ouvertes par des malfaiteurs. Les tombes ont été saccagées la nuit. Les malfaiteurs y recherchaient vraisemblablement des objets de valeur. La mairie de Paris évoque un motif crapuleux. Le cimetière a mis en place une surveillance renforcée.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de ce fameux débat qui fait tant polémique, pas non pas le premier débat qui sera mercredi prochain, mais bien celui du 20 avril, celui sur France Télévisions. Alors justement, Jean Lassalle, beaucoup de candidats, d'autres candidats aujourd'hui s'insurgent, pas forcément les principaux candidats, les mieux placés dans les sondages, qui eux aujourd'hui semblent se fatiguer un petit peu de cette discussion permanente. Vous-même, quelle est votre réaction par rapport à ces candidats, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon aujourd'hui, qui disent si les autres n'y vont pas, j'y vais pas.
D'abord, je voudrais dire que j'aime beaucoup votre émission.
C'est gentil.
Il m'est arrivé de dire le contraire dans certains endroits. J'aime beaucoup le rythme des informations de temps en temps. Et puis, c'est pacifique. Mais il me semble qu'on dit des choses importantes.
Et toujours passionnantes.
Oui, passionnante. Et puis, la manière, on se sent bien. Voilà.
Ceci c'est, étant très gentil, c'est très gentil. Voilà.
Alors, sur les candidats. Écoutez, on se présente ou on ne se présente pas. Est-ce que vous imaginez que j'ai pratiqué quelques sports un peu dans ma vie, que je serais descendu avec le maillot de la ville en disant cet après-midi je joue ou je joue pas, et puis j'y vais pour témoigner, j'y vais pour aller peut-être me montrer un petit peu, mais vous auriez pris des coups de pied aux fesses. Alors je pense que soit on accepte les règles du jeu, ou on les accepte pas. Je trouve totalement indigne que ces dix grands candidats, on verra ce qu'ils sont à l'arrivée, parce que l'un, on sait pas s'il va finir en tôle ou à l'Élysée, l'autre, la bulle, vous savez pas non plus ce qu'il va devenir. Quant aux deux autres, Hamon et Mélenchon, ils vont de toute façon se vampiriser, mais qui va être à l'arrivée? Vous ne savez pas.
Ah, bien sûr.
Eux non plus. Donc moi je pense qu'ils prennent quand même beaucoup de risques, et tous ces calculs d'apothicaire ne les grandissent pas. Je comprends, ils sont déjà tellement grands qu'ils ne peuvent pas devenir plus grands encore. Mais permettons au minusculissime petit candidat que je suis de dire, messieurs, du panache.
Mais justement, non, mais ce que disait Jean Lassalle, ce que disait Jacques Branchard tout à l'heure, c'est vrai que sur la formule 11 candidats, c'est vrai que vous êtes nombreux. Est-ce que vous pensez, même vous, à un moment, pouvoir vous exprimer? Ça va durer 3h45. Est-ce que vous pensez pouvoir vous exprimer?
Écoutez, ça serait la première fois que j'irai quelque part, ça m'exprimait. je ne sais pas, tout est possible, mais non, je n'ai pas cette intention du tout.
Ah, vous allez parler, rassurez juste mes confrères.
Non, hein, je n'ai pas l'intention, j'ai l'intention de m'exprimer.
Oui, bien sûr.
Si je n'y arrive pas, c'est que je me dis, j'ai pris un coup de vieux.
D'accord.
Voilà, voyez.
Virginie Petit, c'est vrai que cette formule, on voit aujourd'hui France Télévisions là, qui n'arrive pas à se dépatouiller finalement de cette histoire. Pourtant, on le disait tout à l'heure, les Français ont pris goût au débat quand même pendant cette campagne électorale. Ça veut dire qu'il en faudrait davantage pour vous, à votre avis, hors campagne électorale?
Davantage de débats organisés différemment, sans doute. C'est ça, en fait, le gros problème, c'est l'organisation. Et puis, effectivement, ce débat qui arrive deux jours avant l'élection, et dans un climat où les électeurs sont extrêmement versatiles, c'est extrêmement risqué pour les candidats d'aller se présenter. Donc, mais peut-être que les Français en tout cas, ils se posent beaucoup de questions, et c'est ça surtout qui fait l'audience. Ils ont envie d'avoir des réponses, et je pense qu'ils peinent à les entendre parce qu'effectivement, les formats ne permettent pas, au moins, d'élaborer un discours, d'aller au bout du
monde. On demande en effet des choses, des réponses rapides.
Deux minutes pour développer un programme économique, par exemple. Moi, je vois pas comment c'est possible.
Gaël Jacquiaf, tout à l'heure, vous le disiez. Alors, vous n'êtes pas très friande, apparemment, des débats jusqu'à présent.
Trop appauvrissant, surtout.
Alors, et pourtant, on avait réussi, je trouve personnellement, pendant les débats de droite comme de gauche, à aller sur certains sujets de fond. Je me souviens d'un débat, par exemple, le revenu universel, qui est assez long à expliquer, de Benoît Hamon. Il avait pu s'en expliquer face à Manuel Valls, parce que c'était la même famille. C'est pour ça que c'était plus simple, finalement.
Ah non, je pense que c'était plus compliqué quand c'était la même famille, parce que, ouais. Et d'ailleurs, ils m'en ont tous parlé, c'est le fait d'être entre eux, d'avoir le sentiment d'être entre eux. Si je vous mets à un débat avec votre frère et que je vous demande de lui taper dessus, c'est pas évident. Bon, bah, c'est
ça
pareil.
Dépend.
ça dépend. Enfin, quand vous étiez petit, bien peut-être, sûr, mais en grandissant, ça va mieux. Ouais. Donc, non, je pense que c'est beaucoup plus difficile quand on est au sein de la même famille. Là, effectivement, il y a un problème organisationnel. C'est mal fait. Mmh. Voilà, il faut le dire. C'est mal fait. Donc, il faut qu'ils réfléchissent un peu pour que ce soit mieux fait. C'est tout.
Est-ce qu'ils ont compris, justement, les candidats, à votre avis? Enfin, ils l'ont vu, d'ailleurs, l'intérêt du débat. On a vu des gens comme François Fillon, Benoît Hamon, qu'on en profitait pleinement lors des primaires. Là, on a l'impression que face aux autres, c'est un peu plus compliqué, maintenant.
Oui, bah, en même temps, c'est le paradoxe que notait Jacques Bornstein. C'est-à-dire, le grand vainqueur du débat, du dernier débat là, c'est incontestablement Jean-Luc Mélenchon, et il va pas, enfin, et pourtant, il critique le prochain troisième débat. Et encore une fois, pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, de questions de timing, de sa propre campagne. Et ce n'est pas très étonnant d'ailleurs qu'Emmanuel Macron ou François Fillon lui emboîtent le pas. Oui. C'est pas une question de risque ou pas risque, parce qu'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon fait preuve dans ses présentations médiatiques souvent de plus de succès que d'échecs. Mmh. Donc voilà, c'est pas une question de il a peur d'y aller ou non. C'est vraiment il est responsable politique, il veut gérer sa campagne et la fin de sa campagne comme il l'entend.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure justement, Marc Andelved, il y a des discussions qui se font via les médias et puis il y a d'autres qui se font via les réseaux sociaux. Hein. Ça parle beaucoup en ce moment de campagne présidentielle, ça soit sur Twitter, Facebook, d'ailleurs sur Internet. Et ce week-end, eh bien, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui l'a révélé. Les Républicains et François Fillon vont lancer une énorme campagne de LOL, en fait, hein, c'est ça, contre Emmanuel Macron, avec des hashtags un peu délirants, comme aujourd'hui, eh bien, il y aura Emmanuel Hollande ou François Macron. Hein, bien sûr, ça, c'est la blague de François Fillon. Il y aura également des hashtags comme Macron girouette. Voilà, bon, on ne sait pas si ça va servir à quelque chose, mais on voit quand même qu'il y a une campagne, Jacques Bornstein, qui se parallèle sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui est assez forte, qu'on avait vu se développer aussi pendant la primaire. On se souvient d'ailleurs de Alain Juppé, hein, qui avait souffert, oui, de son surnom Ali Juppé d'ailleurs aussi, voilà, qui avait souffert de ça. Donc c'est quand même une campagne importante aussi qui se passe sur le net.
Oui, mais est-ce qu'elle est très très différente? Là, vous avez cité parmi les exemples, François Fillon utilise les mêmes éléments de langage dans une émission de télé en appelant François Macron ou Emmanuel Hollande, qui vont ensuite devenir des tweets. Moi, je crois pas. Cette idée qu'il y aurait une autre campagne où il se passerait autre chose, je crois que c'est la même campagne par tous les moyens possibles. Et ce qui est frappant,
c'est un autre média simplement. En
fait,
voilà.
Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les Républicains sont assez inquiets de Macron, parce que ils doivent avoir les nez dans les chiffres et voir que au début Macron prenait au PS, aujourd'hui c'est aux Républicains, donc on attaque Macron.
Gaël Chekhov, vous
l'y Je pense qu'ils font monter Emmanuel Macron d'un étage, c'est-à-dire qu'ils ont transformé Emmanuel Macron de concurrent, il est devenu adversaire. Et là où il se plante complètement, c'est que Emmanuel Macron, c'est le hussard sur le toit. C'est-à-dire que il s'en fout complètement de savoir si on l'attaque ou pas. L'important, c'est qu'il déroule sa démarche. Et donc, le choléra peut s'étendre. Il continuera à se jeter sur les toits.
Voilà, très bien. Donc, lecture de Jean Giono. Hein, voilà pour le week-end, en tout cas, si vous ne savez
alors,
pas.
Alors, on préférait plutôt Divine Comédie, évidemment.
Bah, exactement, bien sûr. Juste, Virginie Petit, vous, sur les réseaux sociaux, on voit même le Front National qui a mis en place, alors eux, une cellule de vérification d'infos. À chaque fois que Marine Le Pen est interviewée, derrière, tout de suite, il y a un fact-checking pour dire voilà pourquoi le journaliste a eu tort de poser cette question.
Oui. Et c'est, ce que ça révèle, c'est ça. C'est une espèce de professionnalisation autour de Twitter et des réseaux sociaux qui n'était pas aussi marquée lors des précédentes campagnes. Et ça s'est vu effectivement lors déjà du premier débat, hein, où toute la place sur Twitter était occupée par les équipes de campagne et leurs relais. Et donc, c'est plus une agora. C'est terminé, ça. En tout cas, pas dans des événements comme ça.
Et en tout cas, j'ai vu vos fans, Jean Lassalle, hein, quand vous avez annoncé que vous veniez à l'émission. En tout cas, voilà, sur moi, sur mon compte Twitter, j'ai été inondé. Et toute la nuit, ça a sonné, hein. Voilà, je vous le dis, en tout cas. Voilà, vous êtes très présents sur Twitter.
Ils sont formidables, merci.
Mais bien
beaucoup.
Sûr, ils sont formidables. Allez, on va parler dans un instant de premier anniversaire, et peut-être du seul, on ne sait pas encore, de Nuit Debout, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
C'est une information du service police-justice de France Info. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, avait pointé des problèmes à l'usine nucléaire du Creusot en Saône-et-Loire dès 2005, usine rachetée l'année suivante par Areva. qui a fabriqué la cuve du réacteur EPR de Flamanville. De nombreux écarts signalés à EDF dans plusieurs courriers. Les renseignements français s'interrogent sur le rôle des autorités chinoises dans les manifestations quotidiennes à Paris depuis qu'un ressortissant chinois a été abattu par la police dans le 19e arrondissement de la capitale. Une note confidentielle des services de renseignement que s'est procurée France Info indique que Pékin est activement impliqué via l'ambassade de Chine à Paris. Le secrétaire général de la CFDT salue un résultat historique. Le syndicalisme a changé de visage, confie Laurent Berger sur France Info. Le syndicat réformiste est désormais leader chez les salariés du privé, détrônant la CGT. La CFDT recueille 26% des suffrages contre 25% pour la CGT lors des dernières mesures d'audience dans le privé. Les opposants bloquent des rues à Caracas. Coup d'envoi, selon eux, d'une campagne de manifestation contre le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro, accusé d'être un dictateur. La Cour suprême du Venezuela a décidé d'assumer les pouvoirs de l'Assemblée nationale où l'opposition est majoritaire. Onde de choc en Amérique latine. La Colombie rappelle son ambassadeur ce soir. Et puis 22 morts au Pakistan dans un attentat à la bombe revendiqué par les talibans. C'est un marché d'une zone à majorité chiite du nord-ouest du pays qui a été visé, au moins 57 blessés.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on va parler rapidement d'un anniversaire. Souvenez-vous, les places de France se remplissaient d'insomniaques. On regardait ça via l'application Periscope et on ne savait pas trop comment appeler un mouvement où se mélangeaient réécriture de Constitution et lanceur de Diabolo. Et un an après, Nuit Debout fait un gros dodo en fait. Hein, le 31 mars 2016, après une manifestation contre la loi travail, la loi El Khomri, des manifestants décident d'investir la place de la République à Paris, puis d'autres places ensuite en région. Discuter, débattre, réfléchir à la suite. Et puis le mouvement s'en est allé avec l'été. Ce week-end, certains vont célébrer ce étrange, ce drôle de mouvement, on peut le dire. Mais quand Nuit Debout, alors que font ces idées? Marc Andelved, c'est vrai que Nuit Debout ne s'est pas transformé, comme on avait pu le penser, en Podemos. Pourquoi finalement, on a l'impression qu'en France, dès qu'il y a des mouvements citoyens, politisés citoyens, ça ne prend pas?
Oui, mais la comparaison avec l'Espagne comporte quand même une limite. C'est qu'on a la situation économique et sociale et la composition sociologique aussi du pays France est quand même largement différente de la situation en Espagne. Et donc en Espagne, la crise économique, le rapport à l'Union européenne également est encore plus tranché qu'en France. Et donc des mobilisations citoyennes de ce type-là sont plus fortes. Et puis elles ont réussi, on va dire, davantage à se cristalliser parce que le système politique est tout autre aussi. C'est un système parlementaire, donc ça, la suite...
Donc il y a une possibilité finalement d'avoir une représentation politique derrière.
Voilà, donc ouais. C'est Podemos. Donc si on fait la comparaison avec le système français, la présidentielle, la verticalité, le candidat devant le peuple, bon, Jean-Luc Mélenchon utilise, entre guillemets, les insoumis, mais c'est vrai que la bascule n'est pas aussi automatique. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont participé à Nuit Debout, qui se retrouve un peu orphelin aujourd'hui en termes de représentativité politique.
Voilà, Jacques Bronstein, c'est vrai qu'on a du mal encore aujourd'hui finalement à le qualifier, ce mouvement. Il y avait un mélange de beaucoup de choses en fait.
Ce mouvement revendiquait de ne pas être un mouvement politique traditionnel qui ressemble à un parti politique et alors, si ça avait marché, je ne sais pas. Mais ouais. Moi, je pense que c'est vraiment la campagne qui phagocyte Nuit Debout, qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines des propositions de Nuit Debout qui se retrouvent d'une certaine manière chez Hamon, chez Mélenchon, ce qui était beaucoup moins le cas en Espagne, où vraiment le PS et le PC avaient fermé la porte à Podemos. Et puis, je pense que ce qui fait le succès d'un mouvement, c'est pas le noyau dur, c'est ces gens qui vont y aller deux, trois fois. Ces gens-là, ils sont allés une fois à un meeting d'Hamon, une fois un meeting de Mélenchon, on verra après les législatives, mais pour l'instant, il n'y a pas d'espace pour Nuit Debout.
C'est ça, oui, Virginie Petit, on n'a vu aucune transformation politique, on va dire institutionnelle de ça, mais certaines idées. Voilà,
puis ça peut être un choix aussi, c'est un mouvement qui n'est pas centralisé, Nuit Debout, et qui s'est parfois investi ou transformé dans des opérations citoyennes, et pas forcément au sein de partis politiques. Donc c'est une autre façon finalement d'être citoyen et de s'investir dans la vie publique.
Alors rapidement, Marc-André Vette, parce que je voudrais qu'on l'entende, on n'a plus trop de temps.
Et puis il ne faut pas oublier, dans un pays jacobin comme la France, le pouvoir central face à des mobilisations citoyennes de ce type-là a réagi, voire je dirais parfois surréagi. Il ne faut quand même pas oublier les démonstrations policières contre Nuit Debout. Ça a été quand même un peu énorme.
Bien sûr. Jean Lassalle, il y a un an, vous n'étiez pas contre, vous, Nuit debout.
Non, j'y étais à plusieurs reprises et je trouvais d'ailleurs que c'était très chouette. Il y avait très longtemps que je n'avais pas vu de mouvement de ce type. Il me semblait que les jeunes étaient beaucoup moins politisés que nous ne l'étions, nous. Enfin, moi, je parle de mon âge, à leur âge. Et d'ailleurs, je l'ai déclaré un soir à l'Assemblée nationale devant Mme Alcomery. J'ai dit, j'ai une très bonne nouvelle, madame, c'est que j'ai retrouvé la jeunesse de France. La jeunesse de France se réunit, elle veut de nouveau parler de son avenir, elle veut redevenir citoyenne. Mais c'est, à mon avis, c'est pas fini, parce que c'est quand même quelque chose qui a laissé beaucoup de traces dans les esprits de ceux qui ont participé, et la citoyenneté est tellement au cœur des préoccupations. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment la gérer, et il y a tout de suite des chefs qui arrivent, et c'est
alors,
pas facile.
Une dernière chose, parce que ça va se terminer, les Informés de France Info. Jean Lassalle, je sais que je vais faire exploser votre temps de parole sur notre antenne, mais j'ai juste une question pour vous. Si vous devenez président de la République, quelle sera votre photo officielle ?
Oh, ce sera une photo la plus sobre possible, avec un costume, cravate, et puis voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je vais sortir un livre, parce que ça, il faut que ça va aller vite.
Bien
vous
sûr.
Comprenez, la photo, j'ai un peu le temps, le livre,
non.
Il sort
le
mercredi, je fais une première, hein, le mercredi, juste avant le premier tour, et ça va s'appeler Résistant, parce que c'est le titre du mouvement, avec un point d'exclamation. Le temps est venu.
Ben voilà,
et le temps est venu de, voilà, d'engager autre chose.
C'est pour ça que les candidats ne veulent pas aller débattre le 20 avril, ils seront juste avant pour acheter votre livre dans les librairies.
Je pense que c'est ça. Voilà, je n'avais pas pensé, mais voilà. C'est ça.
Merci en tout cas, Jean Lassalle, d'être passé ce soir. Merci beaucoup, Gaël Tchekalov. Divine Comédie, voilà, à lire pour comprendre certains candidats, en tout cas qui se présentent à cette présidentielle. Merci d'être passé. Marc-André Delvet, la une de Marianne cette semaine.
Après le suicide du PS, Macron s'y voit déjà et la lutte finale pour Mélenchon.
Virginie Petit, la une de Cour internationale.
Les médias qui roulent pour Donald Trump.
Ah bah oui, bien sûr, c'est normal, les autres. Et Jacques Bronstein, bien sûr.
Scarlett Johansson et les femmes puissantes et sexy.
Voilà, également à retrouver donc en une de GQ.